demandant à l'Église de marquer le temps que nous prenons en signe de pénitence, nous ne cessons en nous unissant à la Sainte Liturgie d'implorer surtout la miséricorde divine. Et en même temps, comme dans le même mouvement, nous témoignons à Dieu de notre confiance à son secours. Voilà ce qui serait l'objet de notre pénitence si elle devait s'arrêter là. Si elle n'était que pour nous, si nous n'avions été choisis de manière singulière pour participer à l'œuvre de celle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais nous n'étions pas perdus. Si, par cas, nous nous étions perdus. Dans les eaux du baptême, nous avons reçu en surabondance, si cela est possible, la vie même de Dieu. Et depuis lors, pour parler comme saint Paul, nous avons reçu grâce sur grâce. Il nous a déjà cherchés. Il nous a déjà sauvés. Nous ne sommes plus perdus, même s'il nous est arrivé de nous perdre. Et la perte pour nous est quelque chose que nous avons en quelque sorte construit. Et non pas un état dans lequel nous sommes nés. Quand, dans l'Évangile selon saint Luc, Jésus dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, il pense à tous les hommes qui sont nés dans le péché. Et qui étaient perdus car ils ne pouvaient aller qu'à leur perte. En effet, si le péché originel entraînait une telle rupture, si le ciel désormais était fermé aux aspirations des hommes, alors l'homme irrémédiablement par le péché originel ne pouvait aller qu'à sa perte. Il était né perdu puisqu'il était né péché. Voilà sans doute un énoncé qui choque nos contemporains. Dans la réalité des choses. Oui ou non, peut-il y avoir salut en dehors du sacrifice du Christ? Y aurait-il moyen de se faufiler par des chemins que nous ne connaissons pas, d'emprunter je ne sais quelle porte dérobée pour aller jusqu'au salut? Ou bien seulement le Christ, ramassant sur lui-même tous les péchés du monde et les expiant dans le sacrifice de la croix, opère-t-il le salut? Le rideau de pourpre violette qui, dans le vieux temple, séparait le saint du saint des saints, était bien fermé. Et il ne se déchira du haut jusqu'en bas que lorsque le Christ est consommé. Alors, le ciel est ouvert. Mais, hors de l'Église, il n'y a point de salut. Ne me faites pas dire. pourquoi ni comment. Aurait-il fait d'autres scènes? Ou le Christ est-il mort pour tous les hommes? Il n'y a pas d'autre salut que dans le Christ crucifié. Alors, qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont pas eu la grâce de la paix? Est-ce qu'il par hasard qu'ils étaient promis à la damnation, qu'ils étaient promis à la perte éternelle? Ce serait aller en contre-revenu avec les textes des Écritures en général et l'enseignement de notre Seigneur en particulier. S'ils vont au salut, c'est parce qu'ils sont hommes de bonne volonté. Nous le savons, au moins, depuis que l'incarnation est apparue aux yeux de tous. Dans la nuit de la nativité, au-dessus des champs de Bethléem, alors que les anges chantaient gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes. Et d'ailleurs, voyez, à l'autre bout du mystère, alors que vient de se consommer le mystère de notre rédemption, c'est bien celui qui représente le péché humain. C'est bien le chef des bourreaux. Celui qui, tout à l'heure, transpercera le cœur sacré du Seigneur, c'est bien celui-là qui est le chef. Oui, cet homme qui était le Fils de Dieu. Il n'y a pas si longtemps, peu jours à peine, vous en souvenez. Vous avez vu le centurion venir demander la grâce au Seigneur, et il n'y a rien de plus étrange et de moins juif que ce centurion-là. Toute l'Écriture le dit. L'homme de bonne volonté, à cause de sa bonne volonté, même si elle ne fut pas éclairée, connaîtra le salut. Tenez encore vert le rayon du temps. C'est vous, parce que vous êtes l'Église, qui êtes aujourd'hui en ces temps et en ces lieux, le Christ répandu et communiqué. C'est votre mystère à vous de venir ici et maintenant, en ces espaces et en ces temps, chercher et sauver ce qui est perdu. Voilà bien alors que notre carême prend une toute autre dimension. Et frappé par je ne sais quelle unité soudaine qui vient toujours au secours de la paresse, voilà que nous mesurons combien nous sommes faibles, sans force, sans moyens, si petits, si vulnérables, et au nom de ce que nous croyons être des bons sentiments, nous détournons les yeux de notre mission, de notre vocation, pour nous considérer nous-mêmes avec peine, avec affliction, avec charité, et tout ce que vous voudrez décliner sur le même registre. Nous ne sommes rien, et nous ne pouvons rien.
Et nous ne sommes rien par nous-mêmes, et nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Mais avec le Christ, par le Christ, participons à l'œuvre de cette vie. n'en reste pas moins que nous sommes faibles, que nous sommes sans force, que nous sommes pauvres. Et tout ce que vous voudrez en termes les plus disqualifiants. Et alors, vous a-t-on donné une quantité ou une qualité de choses? Vous a-t-on attribué un quota? Quelle est la mesure? Peut-elle être au-delà de vous, ou êtes-vous vous-même la propre mesure du champ qui vous est attribué? Dieu serait-il assez mauvais pour vous demander ce que vous ne pouvez pas? Des choses extraordinaires, très au-dessus de nous, que nous admirons péageusement. Je crains que là ne soit pas la pédagogie. Jésus est venu nous prendre tel que nous sommes. Chacun, un par un, non point d'ordre en groupe, en régiment, en marche, en mouvement, ou en je ne sais quel rassemblement humain. Et nous, moi, le Père nous regarde, chacun, d'un amour unique, irremplaçable. Ce fameux amour de direction dont on parlait autrefois, on avait encore du vocabulaire. Il avait sûrement, lorsqu'il choisit ses apôtres, de bien meilleurs atouts dans la société qui l'entourait. Et pourtant, il a choisi ces 12-là, sans leur dire ni nous dire pourquoi. Eh bien, ce qui vaut pour les apôtres, 13 ou 22, vaut pour chacun d'entre eux. Le Seigneur m'a choisi. Et il m'a choisi pour que j'aille avec lui, que je participe à la construction de moi avec ce que je peux, c'est-à-dire avec moi-même, à ma mesure et à ma dimension. Lisez la parabole des talents. Vous verrez que celui qui ne peut avoir qu'un à un, celui qui ne peut avoir que deux à deux, celui qui peut avoir cinq à cinq, et à chacun il dit, au moment de la récompense, quand elle a lieu, parce que tu m'as été fidèle en une petite chose, je t'appellerai sur de grandes choses. Alors ne vous demandez pas si les choses que vous faites sont grandes ou petites. Et à mesure de faire des petites choses, arriverez-vous peut-être à faire de grandes choses. Ce qui vous convient, c'est de faire ce que vous pouvez. Pas très juste, Dieu du monde. Eh bien, c'est en nous. Comment se font Dieu? Nous devons témoigner, nous devons faire entendre la voix du Christ, nous devons montrer. Ah oui? Et qui vous l'a dit ça? Jésus. Tiens, comme c'est curieux, moi, deux fois cette semaine, demandons à quoi cela peut-il bien servir. À quoi cela peut-il bien servir, ces petites pénitences de rien, ces sacrifices minuscules, ces exercices de la maîtrise de moi-même, et toutes ces choses. Mais vous savez ce qu'elles valent et ce qu'elles vous coûtent. Vous le savez si bien que ça ne réussit pas toujours.
Thank you.
Devons-nous nous en étonner?
Peut-être.
Devons-nous nous en plaindre? Alors que nous sommes à l'exemple de notre Seigneur. Et puis, il y a un considérant que je gardais pour la fin. Mais les anges nous aiment. Mais les anges nous aiment. Discrètement, comme sont d'habitude les anges, hormis sur les tableaux de la grande école. Mais efficace. Puisque vous êtes avec Jésus dans le désert, puisque vous êtes tenté par le diable, puisque vous êtes entouré de bêtes sauvages, les anges servent, et ils vous servent, afin que vous deveniez toujours mieux des serviteurs de Dieu, ainsi que vous le dites tant de fois dans ces prières de carême, de sorte que les grâces ne soient pas gaspillées. Les frères qui disaient Saint-Paul tout à l'heure dans le capitule, nous exhortons de ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu, car il dit « Je t'ai exaucé au temps favorable et je t'ai aidé aujourd'hui. » D'ailleurs, il ajoute, vous l'avez entendu, c'est maintenant le temps du Seigneur. Bien chrétien, c'est maintenant qu'il faut que vous alliez avec le Christ, par le Christ, dans le Christ, chercher et sauver ce qui était perdu. Les hommes de bonne volonté seront sauvés à cause du bien qu'ils ont fait et du mal qu'ils ont refusé, mais surtout à cause de tout. C'est vous qui vous saisissez du bien qu'ils font, du mal, de la résistance au mal. Les saisissez et qui les offrez à Dieu dans le Saint Sacrifice, en même temps que ce qui vous appartient, afin que le monde soit sauvé. Voilà, chrétien, où il vous faut aller. Continuez avec ardeur les exercices du carême. Apprenez. Heureusement, peut-être, à vous maîtriser vous-même. Faites autant que vous le pourrez. Œuvre de pratiquer d'observance. Faites le bien de manière à pouvoir vous amener à la paix et charité. Une charité sans fin. Thank you. conscience, du combat